Le Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le 14 janvier 2011, le président tunisien Ben Ali quittait précipitamment son pays après 4 semaines de soulèvement populaire. 10 ans plus tard, quel regard porter sur cette révolution citoyenne, la première de ce que l'on a appelé les printemps arabes? Comment en mesurer l'impact pour la Tunisie comme pour le reste du monde? Nous serons en ligne depuis Tunis, pandémie oblige, avec le sociologue et politologue Mohamed Kérou, qui appelle de ses voeux l'autre révolution, celle des mentalités qui mènerait vers une citoyenneté plus accomplie. Un entretien mis en ondes et réalisé par Mathias Golshani, à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio.
Changement de ton en Tunisie, le régime de Ben Ali, qui avait entrouvert la porte à plus de démocratie, a opté ce soir pour la répression. L'état d'urgence a été décrété dans tout le pays et un couvre-feu est en vigueur depuis 17h et jusqu'à 7h demain matin. La révolte connaît un nouveau tournant depuis quelques heures. La manifestation qui se déroulait devant le ministère de l'Intérieur a dégénéré. La police est intervenue brutalement. On attend maintenant d'une minute à l'autre une annonce importante faite à la télévision tunisienne, peut-être une allocution du président Ben Ali.
Bonjour Mohamed Kérou.
Bonjour Éric Bataillon.
Sociologue et politologue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Al-Manar de Tunis. Nous venons d'entendre un son d'archives de nos confrères de France 24 daté du 14 janvier 2011, à quelques heures donc du départ du président Ben Ali. Mohamed Kérou, quel souvenir gardez-vous de cette période ?
C'est une période qui était vraiment marquante dans la mesure où on s'attendait pas du tout à ce mouvement de protestation et puis de contestation du pouvoir. C'était inattendu et en même temps, on a vu s'écrouler le pouvoir en un laps de temps assez court et c'était imprévisible.
Mohamed Kérou, la semaine prochaine, le 14, marquera symboliquement le 10e anniversaire de cette révolution tunisienne, puisque c'était le départ du pays, du président Ben Ali, le 14 janvier 2011. Est-ce un jour vraiment particulier pour vous ?
Absolument, je pense que c'est un jour particulier pour tout le monde, hein, pour tous les Tunisiens et même pour les citoyens des pays proches et lointains. Personne ne s'attendait, comme je vous l'ai dit, à ce départ, ni à l'écroulement du régime de Ben Ali, que l'on croyait inamovible, que l'on croyait fort, puissant, puisqu'il y avait une prise sur la société assez puissante. On a vu s'écrouler comme un château de cartes, en fin de compte.
C'était une surprise pour vous ?
Oui, absolument. Personne n'avait prévu ça, même si on voyait le mouvement de protestation, contestation monter dans les régions de l'intérieur, puis venir jusqu'à Tunis en passant par les grandes villes comme Sfax et tout cela. Donc il y avait une vague comme ça qui était montante, mais on s'attendait pas à ce qu'il y ait le départ du président Ben Ali vers 17h le 14 janvier.
Oui, est-ce que selon vous, cette période révolutionnaire a commencé à ce moment-là ou plutôt, par exemple, avec la tentative de suicide de Mohamed Bouazizi le 17 décembre à Sidi Bouzid ?
Oui, évidemment, ça a commencé le 17 décembre et tous les jours après le 17 décembre, ça a pris moins d'un mois pour que le pouvoir s'écroule. Et d'ailleurs, maintenant, en Tunisie, on parle de la révolution du 17 décembre 14 janvier, à la fois pour dire que le point de départ, c'était le 17 décembre et que le point de chute, de clôture de ce cycle révolutionnaire, c'était, même si ce n'est pas une clôture définitive, mais disons du premier cycle, c'est le 14 janvier.
Donc 17 décembre, 14 janvier, laps de temps très court, 4 semaines à peu près, le château de cartes s'effondre. Comment expliquer qu'un pouvoir si fort lâche en si peu de temps ?
Je pense qu'il a été lâché à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Parce que n'oublions pas qu'à l'extérieur aussi, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle et les télévisions satellitaires ont répercuté ce mouvement. Et du coup, il a été lâché, pas par tout le monde, mais par la plupart des puissances. Et à l'intérieur aussi, il a été lâché par le parti, par la police, par l'armée et bien entendu par les citoyens. Parce que sa politique des dernières années a été une politique impopulaire et assez arrogante. Il a été pris de vitesse et lui-même ne croyait pas. Et en plus, ce sont ses derniers discours qui ont précipité sa chute. Ses discours étaient complètement ratés.
Alors, Mohamed Kérou, de mars à juillet 2011, c'est-à-dire juste après cette période que l'on vient de décrire, vous étiez en résidence à l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherche avancée de l'Université Aix-Marseille, avec comme projet de recherche penser la révolution tunisienne. Votre objectif était, je cite, de pouvoir cerner la complexité d'un phénomène en cours, appelant à réinventer à l'échelle planétaire de nouvelles formes de démocratie participative. Pensiez-vous donc à ce moment-là, Mohamed Kerout, que cette révolution tunisienne avait valeur d'exemple pour le reste du monde ?
Maintenant, avec le temps, on peut tempérer ce jugement ou cette hypothèse. Disons que le phénomène était complexe, à coup sûr. On découvre aujourd'hui toute sa complexité, comme la complexité des autres mouvements ailleurs. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, avec le temps, on se rend compte que ça ne peut pas servir d'exemple, ni de modèle, ni pour le reste du monde, même pas pour la région, que c'est un cas spécifique en fin de compte. D'ailleurs, si on compare avec ce qui s'est passé en Libye, ou bien en Égypte, ou bien en Syrie, au Yémen, et même à Bahreïn, on voit que ce qui s'est passé en Tunisie est complètement différent. C'est-à-dire que, essentiellement, la violence du pouvoir a été tempérée, et la violence du pouvoir a été vite contrôlée, endiguée, alors qu'ailleurs, la violence a complètement débordé pour donner soit des guerres civiles, soit carrément une reprise en main, comme c'est le cas en Égypte.
Néanmoins, il y a eu en 2019 et en 2020 d'autres soulèvements populaires dans la région. Il y a l'Algérie, il y a le
Absolument.
Liban, l'Irak. Est-ce que justement la Tunisie et l'évolution de la situation politique en Tunisie n'a pas joué sur ces pays et ces événements ?
Je pense que ça a joué, mais en même temps, il faut relativiser. C'est des situations spécifiques. Mais disons qu'en gros, c'est une deuxième vague. Et d'ailleurs, qui a également touché la Tunisie, parce que ces dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements, peu médiatisés, mais beaucoup de mouvements sociaux à l'intérieur des régions. Donc, c'est une sorte de deuxième vague de ce qu'on appelle les révolutions arabes, entre guillemets, particulièrement en Algérie, le Irak, mais également au Soudan, au Liban et en Irak. D'ailleurs, si on compare ces quatre mouvements de la deuxième vague, ces quatre ou cinq, puisqu'en Tunisie, il y a eu également, pas d'une ampleur aussi grande qu'en Algérie ou bien au Soudan. Si on les compare, on voit la spécificité de chaque mouvement. Le Irak algérien n'a pas de structure organisationnelle. Ce n'est pas le cas, par exemple, au Soudan, où il y a eu des syndicats qui se sont activés et il y a eu des négociations avec le pouvoir. Alors qu'en Algérie, il n'y a pas eu de négociations avec le pouvoir. Vous voyez, et au Liban également, c'est un autre cas. Ce sont des cas spécifiques qui s'inscrivent, je pense, dans une deuxième vague à l'échelle arabe, mais aussi dans une autre vague mondiale de contestation des pouvoirs.
Donc, on aimerait que la Tunisie soit un exemple pour les autres pays, mais en réalité, c'est quand même une situation très, très spécifique qui a réussi.
Absolument, absolument. C'est une situation spécifique, mais en même temps, il faudrait, à mon avis, ne pas tomber dans le travers qui est passé, à savoir que c'est une exception. La Tunisie n'est pas une exception. Dans chaque pays, il y a une exception. Là où elle est exceptionnelle, la situation, c'est dans la négociation, la force de la société civile et l'art d'éviter la violence généralisée, que ce soit sous forme de guerre civile ou bien de répression très dure de l'opposition. En Tunisie, on a trouvé le moyen de s'en sortir. Maintenant, le pays est en crise, on va voir si le dialogue national va réussir encore une fois ou si ça va être un échec.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI et nous sommes en compagnie du sociologue et politologue tunisien Mohamed Kerout pour évoquer les 10 ans de la révolution tunisienne. Mohamed Kerout, dans un livre paru récemment à propos de la première année de cette révolution tunisienne, le sociologue Pierre-Robert Baduel parle d'une confrontation acharnée entre un mouvement populaire informel et les élites, toutes issues du pouvoir autoritaire disparu. Est-ce votre sentiment ?
Non, pas du tout. Pas du tout, d'abord parce que il faudrait définir c'est quoi les élites. D'un point de vue sociologique, les élites, c'est des groupes de statut, c'est-à-dire ayant des rôles, et ces groupes sont composites, sont hétérogènes. Il y a l'élite économique, l'élite politique, l'élite culturelle, l'élite scientifique, etc. Et on ne peut pas juger les élites comme une unité intangible. C'est composite, et d'autre part, concernant le hiatus entre les élites et ce qu'on appelle les masses, il est général, ça existe dans tous les pays. Pour le cas de la Tunisie, il y a certes un aspect de coupure entre les élites et la société, mais ça dépend de quelles élites. Par exemple, les jeunes ont produit une certaine élite avec les blogueurs qui ont aujourd'hui presque disparu et qui n'étaient pas en rupture totale. Et les élites tunisiennes, toutes les élites ne se sont pas rangées du côté du pouvoir de Ben Ali. Loin de là, la majorité était réfractaire à ce pouvoir. Il y a des élites dans l'opposition, il y a des élites dans le pouvoir. Et aujourd'hui aussi, on a le même phénomène. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de la théorie des élites, c'est la thèse de Pareto de la circulation des élites. Et on peut d'ailleurs analyser, à mon avis, ça n'a pas été fait, mais on pourrait le faire parce que le processus révolutionnaire est un processus qui reste ouvert. On pourrait considérer la révolution tunisienne, comme d'autres révolutions dans le monde, comme étant une substitution d'une élite par une autre. Sauf que la nouvelle élite au pouvoir aujourd'hui n'a pas l'envergure d'une véritable élite. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? Puisque les exigences d'emploi et de justice sociale n'ont pas été réalisées, on a démocratisé le système par une nouvelle élite au pouvoir. Composite elle-même, n'est-ce pas? Il y a donc la thèse de Pareto, du sociologue italien Pareto, qui disait que la circulation des élites et la substitution des élites permet un certain équilibre social. Autrement, il y aura la révolution. Ça peut se vérifier en bonne partie pour le cas de la Tunisie. Mais il est difficile de dire qu'il y a une coupure et que toute l'élite s'est rangée du côté du pouvoir, ni du temps de Ben Ali, ni actuellement. Je pense qu'il y a, plusieurs types d'élites. Il y a une partie de l'élite qui se range toujours du côté du pouvoir et d'autres qui restent réfractaires et qui restent opposés au pouvoir.
Malgré tout,
et ça vaut pour tous les pays, bien entendu.
Bien sûr. Malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas constater que les forces politiques en présence à l'époque, 2011, ne se sont pas associées parfois de façon ambiguë pour contenir la pression de la rue?
Absolument, mais elles l'ont fait sous la contrainte. C'est-à-dire que, en fait, il n'y avait pas de force politique à part les islamistes qui étaient exilés pour l'essentiel et réprimés à l'intérieur. Elles ont essayé, chacune à sa façon, de récupérer le phénomène révolutionnaire auquel, et c'est très important, toutes tendances confondues, elles n'avaient pas participé. Ceux qui ont participé, pour la plupart, c'est des jeunes et des moins jeunes qui n'étaient pas organisés. C'était un mouvement spontané et un mouvement à large échelle. Et donc les partis politiques, après le 14 janvier, jusqu'aux élections, ont essayé de s'organiser et de contenir les revendications de la rue au niveau du discours, bien entendu. Mais 10 ans après, on se rend compte qu'une fois qu'elles ont accédé au pouvoir, notamment les islamistes et actuellement les populistes, elles n'ont pas pu satisfaire ces demandes. D'où l'impopularité maintenant et des islamistes et des populistes. Ça commence pour le cas des populistes parce qu'ils sont nouvellement au pouvoir depuis une année uniquement.
Alors justement, vous parlez des islamistes et à la fin de cette année 2011, les premières élections démocratiques avaient donné l'avantage à une coalition menée par les islamistes. Était-ce une déception pour les révolutionnaires à l'époque et est-ce qu'il y a eu à ce moment-là une crainte d'un dérapage à l'algérienne?
Pas un dérapage à l'algérienne, c'était bien entendu une déception pour les jeunes et pour ce qu'on appelle les forces révolutionnaires qui n'étaient pas organisées, que les islamistes prennent le pouvoir, mais c'était également le résultat des urnes et il fallait respecter, et ça a été respecté. Un des avantages des gens qui étaient au pouvoir à cette époque-là, en 2011, c'est d'avoir accepté les résultats des élections, et puis il s'est avéré 2 ans après que les islamistes étaient incapables de gouverner, parce qu'ils n'avaient pas l'expérience, et parce qu'ils voulaient changer la société à travers la Constitution. Et là, on voit la capacité de la société civile, essentiellement autour de la centrale syndicale, mais également des autres partis sécularistes, négocier avec les islamistes pour arriver à une constitution de compromis, celle de 2014, alors que la première mouture, telle qui a été préparée par les islamistes, voulait absolument changer les rapports entre le politique et le religieux et changer le statut des femmes. Mais là, il s'est avéré, et les islamistes ont compris qu'on ne pouvait pas toucher à cela, et on a donc reconduit les bases institutionnelles et constitutionnelles d'avant 2011.
Est-ce qu'il y a eu par la suite, Mohamed Kérou, une crise de leadership dans la classe politique tunisienne ?
Absolument, et ça continue jusqu'à maintenant. Un des problèmes de la transition, c'est qu'il n'y a pas de leader pour conduire cette transition. C'est un des problèmes, que ce soit des leaders politiques ou bien des leaders économiques. C'est l'absence de leadership est une donnée fondamentale pour comprendre l'échec relatif de la transition. Je dis échec relatif parce que nous ne pouvons pas juger de cette transition ni de la révolution qui l'a précédée en un laps de temps aussi court qu'une dizaine d'années. Nous ne voyons que les linéaments de cette transition et de cette révolution, et le phénomène est encore en cours et ça va prendre beaucoup d'années, ça va prendre beaucoup de temps pour qu'on puisse le juger, pour qu'on puisse l'étudier d'une manière distanciée.
Dans votre livre paru fin 2018, Mohamed Kérou, L'autre révolution, vous écriviez qu'à l'actuelle révolution émancipatrice du droit et des institutions, il manquait une révolution des mentalités qui mènerait vers la citoyenneté accomplie. Que vouliez-vous dire alors et maintenez-vous ce point de vue aujourd'hui ?
Oui, je le maintiens et bien entendu en nuançant. Parce que pour ce qui est de la révolution du droit et des institutions, elle-même, elle est incomplète. Par exemple, il manque, entre autres, et c'est fondamental pour le processus de transition, il manque une cour constitutionnelle. Et jusqu'à maintenant, les partis qui sont représentés au sein de l'Assemblée des représentants du peuple n'ont pas réussi à s'accorder sur cette cour constitutionnelle. Et du coup, donc, le processus constitutionnel et institutionnel, le processus juridique, n'est pas complet. Donc il faudrait nuancer concernant la révolution tunisienne qui n'a pas encore accompli donc ses objectifs sur le plan juridique, mais surtout sur le plan économique et social. Comme je vous l'ai dit, les exigences fondamentales de la révolution, à savoir le travail, la liberté et la dignité, n'ont pas été jusqu'ici réalisées. La liberté, il y a eu des avancées sur le plan de la liberté. Il y a une liberté d'expression en Tunisie actuellement, et depuis quelques années, depuis 2011. Mais les objectifs fondamentaux économiques et sociaux n'ont pas été réalisés. Et bien entendu, ce qui manque, à mon avis, c'est une révolution citoyenne. Qu'est-ce qu'on entend par révolution citoyenne ? C'est-à-dire qu'il y ait, entre autres, satisfaction de ces objectifs, notamment de la dignité, et qu'il y ait un respect des libertés fondamentales sur le terrain, et qu'il y ait également un respect des différences, et une tolérance des différences au sein de la société. Cela n'est pas encore acquis, cela prendra du temps, et également il y a un autre aspect très important, c'est que depuis 2011, on assiste à une montée de ce qu'on pourrait appeler les illégalismes de toutes sortes. Et dans la révolution citoyenne, il faudrait également une application de la loi, qu'elle soit appliquée pour tous. Et d'ailleurs, la montée des mouvements sociaux dans les régions, qui est légitime, mais elle s'accompagne également d'illégalisme. Ici, notamment dans les régions du sud, mais à l'intérieur, on coupe les routes, on coupe les vannes de pétrole, de gaz, etc. Et ce sont des mouvements qui ne tiennent pas des civilités. Et ce sont des mouvements qui menacent l'État. D'ailleurs, l'État lui-même traverse actuellement une crise d'autorité. Et seule une révolution citoyenne qui prendra beaucoup de temps et qui se fera par la négociation et par la conscientisation, par la prise de conscience, pourra rétablir l'autorité de l'État et permettre aux citoyens de s'affirmer et d'être respectés par la même autorité.
Merci Mohamed Kérou.
C'est moi qui vous remercie.
Sociologue et politologue, professeur de sciences politiques à l'université El Manar de Tunis, à lire ou relire votre essai « L'autre révolution » paru fin 2018 chez Cérès Éditions.
<t'->